Voici le téléphone sonne, c'est votre émission. On attend vos questions, vos remarques, vos suggestions ce soir. Questions sur une entreprise qui fait partie de notre quotidien, la SNCF. Elle est régulièrement à la une de l'actualité. Réforme de son statut l'année dernière, réforme éventuelle du système de retraite de ses agents, mais aussi la sécurité avec l'accident récent sur le réseau TER et bien sûr des grèves. La SNCF a désormais un nouveau PDG à compter de ce jour, de ce 1er novembre, Jean-Pierre Farandou. Les défis de l'entreprise sont nombreux. Préparer l'arrivée de la concurrence, poursuivre la rénovation du réseau, faire des économies, améliorer les relations avec les voyageurs, changer le climat social, souvent conflictuel. Sur tous ces thèmes, on attend vos questions, vos remarques, vos témoignages. Et pour vous répondre ce soir, dans ce studio, il y a avec moi Gilles Dansart. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste des transports ferroviaires, rédacteur en chef de Mobilette, un site d'information sur les transports. Anne-Marie Guémard, bonsoir.
Bonsoir.
Anne-Marie Guémard, vous êtes vice-présidente de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.
C'est cela.
Et Fanny Arave, bienvenue.
Bonsoir.
Fanny Arave, porte-parole de l'UNSA ferroviaire. J'ajoute que nous avions bien sûr invité ce soir la direction de la SNCF, mais elle n'a pas donné suite à notre invitation.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Beaucoup de questions déjà au standard au 01 45 24 7000. Eric se trouve à Annecy et nous écoute et veut intervenir. Bonsoir Eric.
Bonsoir.
On écoute votre question ou votre témoignage.
Alors, ma question, elle va se résumer de la façon suivante, c'est où va la SNCF et est-elle un peu en train d'oublier le service qu'elle doit apporter à ses clients? Je m'explique rapidement, on voit depuis des années des suppressions de trains, des trains de nuit, des intercités, les TER qui se remplacent par des bus. On a les tarifs, parallèlement à ça, qui augmentent en complexité et ça devient une complexité démentielle. Maintenant, on nous parle de suppression des guichets. Et puis il y a l'ouverture à la concurrence qui va se rajouter à tout ça. Donc on voit pas très bien comment ça va devenir dans quelques années et qu'est-ce que l'usager va faire au milieu de tout ça.
Voilà cette description, Eric. On va commenter tout cela. Fanny Arave, je rappelle, porte-parole de l'UNSA ferroviaire, un des syndicats qui compte à la SNCF. Comment réagissez-vous au portrait de la SNCF que vient de proposer de faire Eric sur l'antenne?
Écoutez, c'est une interrogation qui est également partagée en interne. On se pose la question du sens de la SNCF, où va la SNCF? On a eu une transformation majeure avec la loi Nouveau Pacte Ferroviaire de 2018 qui transforme donc l'établissement public en société, en même différentes sociétés anonymes, donc avec des impératifs de rentabilité, de budget, même si c'est un financement public. Il y a quand même une vraie obligation maintenant de rentrer dans une logique économique et financière assez forte, ce qui effectivement amène, avec l'ouverture à la concurrence, à avoir des suppressions, d'arrêts, de postes, sur effectivement une vision économique. Donc cela aussi nous interroge et participe d'ailleurs au malaise du corps social, parce que là où des agents, depuis de nombreuses années, participaient à un projet global de société, de faire, de voyager par le train, de service public, là, d'autres impératifs arrivent, et le tuilage entre les deux n'est pas évident.
Gilles Dansart, spécialiste des transports ferroviaires, rédacteur en chef de ce site Mobilettre, est-ce que vous partagez le constat que vient de faire Eric? C'est-à-dire que tout va mal. Fermeture de lignes, fermeture de guichets, des tarifs incompréhensibles.
Tout ne va pas mal, mais en l'occurrence, la description d'Eric est tout à fait conforme à la réalité. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, ce que demandent les pouvoirs publics à la SNCF. Les gouvernements successifs exigent de la SNCF plus de rentabilité, de faire des économies, de réduire les effectifs. Donc, logiquement, ça doit se voir. Ça n'est pas la SNCF toute seule qui décide. C'est un ensemble c'est un ensemble assez cohérent depuis 20 ans de vouloir réduire la contribution du budget général de la nation au ferroviaire. Comme si le ferroviaire pouvait être autosuffisant. Ça n'est pas le cas, ça n'est le cas nulle part. Les transports du quotidien, ces fameux transports du quotidien que le gouvernement veut mettre en avant, ils sont subventionnés dans tous les pays. Donc il est tout à fait normal que la nation contribue. Mais simplement, aujourd'hui, on a mis le curseur tellement haut que ça se voit, j'allais dire, à l'œil nu, qu'il y a une réduction des effectifs et une réduction de la présence humaine.
Anne-Marie Guémard, vice-présidente de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports.
Vous pouvez dire la FNOT, c'est
oui.
plus rapide.
D'accord, je vais faire ça, d'accord.
Oui, nous partageons tout à fait depuis très longtemps les griefs d'Éric. Mais plus largement, je voudrais dire quand même que malgré tous ces griefs, les usagers aiment le train. Nous continuons à prendre le train et nous sommes de plus en plus nombreux à prendre le train. Mais la SNCF, je ne sais pas qui au niveau de la SNCF, mais on a oublié un peu les usagers. On est dans la communication, dans le numérique, mais nous sommes des êtres humains, pas des avatars, pas des êtres numériques. Donc nous avons besoin de présence humaine et nous avons besoin de fiabilité, de sécurité. Et cela, je pense qu'il y a eu un oubli où on s'est tourné vers la communication numérique un peu déconnectée du réel.
Fanny Arave, est-ce que vous êtes d'accord sur ce constat que fait Anne-Marie Guémard? Cette importance du numérique
C'est paradoxal, parce qu'à la fois on a été très porté client, et là-dessus il y a eu des choses quand même été faites sur la connaissance du client, et malheureusement le yield management y a participé également, mais qui demande une précision, une plus grande segmentation et de connaissance du client. Mais il y a aussi c'est dans d'autres secteurs, un certain fantasme sur le numérique. Le numérique va tout régler, le numérique va permettre de remplacer des emplois, le numérique va permettre de mieux connaître, de mieux comprendre, etc. Donc effectivement, il faut rappeler que le numérique est un outil, n'est pas une fin en soi.
Oui, mais on dit que Guillaume Pépi, le PDG de la Kipar, a réussi avec le numérique à créer un centre de vente de billets qui est peut-être le premier site de vente en France.
On fait des choses formidables avec le numérique, mais il faut que ça soit rattaché à une mission, à un objectif. Là aussi, même pour des sujets plus techniques d'infrastructure, on attend des choses du numérique, mais ça ne remplacera pas quand même d'avoir une boucle humaine. Ça rapprochera pas d'avoir des techniques et des process industriels. Et le numérique par rapport au client ne peut pas constituer la seule source d'information et de réservation pour le concernant et ne peut pas être sa seule interface. Puis on oublie qu'il y a un illettrisme numérique, parce que même pour des jeunes, regarder des vidéos sur Internet ou autre, ça demande pas les mêmes connaissances cognitives, les mêmes besoins cognitifs que de répondre à un progiciel de saisie.
Anne-Marie Guémard pour la FNAUT, rapidement, après on va au standard.
Le numérique, évidemment, est une aide. Mais ce qui se passe, je pense, c'est que la SNCF a des idées sur la communication qui doit exister, numérique, mais n'écoute pas le retour des usagers. Or, le site SNCF est sans doute bien fréquenté, mais par exemple, il interdit des trajets à plus de 2 correspondances. C'est une aberration. Ça fait des années qu'on le dit. On est obligé d'aller sur les sites suisses ou allemands pour trouver les trajets qui ont plus de 2 correspondances. Or, la SNCF rajoute des correspondances régulièrement en saucissonnant des trajets. Donc, on peut de moins en moins choisir un trajet plus simple. Donc, c'est une aberration. Et ça, on a beau le dire, ça n'avance pas. Un exemple. Mais le numérique ne remplacera pas tous les guichets qu'on a supprimés, les présences en gare. Je peux vous faire, ce matin, j'étais à la gare de Valence, je n'ai vu absolument aucun employé SNCF. Les guichets étaient fermés, bien sûr, c'était le 1er novembre. Les DBM, il y en avait, les distributeurs, il y en avait la moitié en panne. Et le guichet d'information était fermé. Il restait la personne, la salariée de Monoprix. On va où, là? Nous avons besoin d'humains.
Gilles Dansard.
Je vais un peu défendre quand même la SNCF. Oui. Les usagers demandent aussi que le prix de train soit moins cher. Donc, ils cherchent à faire des économies. Alors, peut-être que les économies sont mal faites, mais en tout cas, il y a une somme d'injonctions contradictoires, comme on dit, qui pèse sur la SNCF. L'État, les usagers, moins cher, plus de présence humaine, moins de coûts, qui fait que la situation est vraiment très difficile. Il n'y a pas de stratégie globale, il faut bien l'avouer, et ça a des conséquences sur le quotidien des usagers.
Franck nous écoute, il est à Valence. Bonsoir Franck, vous patientez depuis un bon quart d'heure, pardon. Allez-y, c'est à vous maintenant, en direct sur l'antenne d'Inter.
Oui, bonsoir. Donc voilà, moi je suis cheminot au dépôt de Porte les Balances, Franck Combe. Alors je suis très étonné qu'on voit aujourd'hui apparaître les effets de la concurrence. La concurrence a été mise en place dans le fret ferroviaire à partir de l'année 2004. Et du coup, le trafic fret ferroviaire a été diminué de moitié. Pourquoi ? Et quand je dis de moitié, c'est pour l'ensemble des opérateurs ferroviaires, toutes les entreprises ferroviaires. Parce que à ce moment-là, à partir de 2004, la SNCF s'est orientée vers les trafics les plus rentables, notamment les trains complets à forte valeur ajoutée au détriment des trains qu'on appelait qui étaient issus des triages, c'est-à-dire le wagon isolé. Et aujourd'hui, on voit les effets de ce qui s'est passé au niveau du pacte ferroviaire 2018. C'est-à-dire qu'il y a les dessertes ferroviaires, y compris au niveau des CGV, qui sont petit à petit remises en cause parce qu'insuffisamment rentables. Voilà. Je voudrais intervenir par rapport au droit de retrait aussi. Effectivement, la déshumanisation à bord des trains a un effet sur la sécurité. Et je pense que les cheminots ont bien fait d'appliquer leur droit de retrait compte tenu du fait que le seul intervenant qui subsistait lors de l'accident ferroviaire du 16 octobre à Champagne-Ardenne, c'était le conducteur.
Franck.
Alors qu'auparavant, il y avait encore un contrôleur. Et là, il s'est avéré que le système d'alerte radio a été défaillant. Et effectivement, on a évité une grave catastrophe.
Voilà. Et la SNCF ne veut pas de contrôleurs dans les TER. Elle promet d'améliorer les systèmes de transmission radio qu'auront les conducteurs de TER. Mais Franck, juste un point. Vous craignez les conséquences de l'ouverture à la concurrence que va vivre la SNCF à la fin de 2020?
On a vu les effets bien avant 2020, y compris au niveau du trafic voyageur. Guillaume Pépi qui s'en va. Hein, Guillaume Pépi, ça fait 6 ans qu'il assène un discours. Il faut se préparer à la concurrence. Ouais. On explique aux cheminots qu'il va falloir supprimer les guichets, qu'il va falloir supprimer les contrôleurs à bord des trains, qu'il va falloir supprimer des agents sur les quais. Moi, je m'excuse, mais quand je vois des gardes correspondants, peut-être que Valenceville, pour celle que je connais le mieux, ou Béziers, où il y aurait plus un agent sur le quai, alors que ce sont des gardes correspondants. Mmh. Vous pouvez mettre le meilleur outil numérique, ça ne remplacera pas la présence humaine.
Merci, Franck. Merci, Franck.
Y compris au niveau de la sécurité. Moi, je l'ai vu. Oui. Je suis conducteur de train. Quand vous avez un train, excusez-moi, c'est un petit peu technique, AGC avec 8 voitures, où la seule responsabilité de la fermeture des portes et d'autorisation de départ repose sur le seul conducteur, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Il peut y avoir des loupés. Quand il y a un contrôleur, à tout moment, il faut actionner le signal d'alarme pour dire, stop. Et en supprime. Mais enfin, ça a été dit par vos intervenants.
Bien sûr. Très bien, Franck. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Vous êtes conducteur donc de train directement sur le terrain, confronté au quotidien de la SNCF. Gilles Dansart, cette ouverture à la concurrence, il y a pas mal de courriels qui arrivent sur le site de l'émission. Comment ça va se passer concrètement fin 2020? On aura le choix entre des trains de la SNCF et puis des trains d'une compagnie étrangère, italienne, espagnole, allemande?
Sans doute à terme, mais ça va être très lent. Mais ce dont il faut prendre conscience, c'est que ça ne va pas du tout être pareil que la concurrence pour le fret. Le fret, la concurrence n'est pas responsable de tout. Le fret est malade en France depuis 20 ans. Tous les gouvernements disent que c'est une priorité et en fait ne font rien pour transférer les marchandises sur le rail. Donc la concurrence n'est pas responsable de tout. Le fret était malade bien avant l'ouverture européenne et à la limite on peut même considérer que l'ouverture à la concurrence a peut-être évité une dégradation encore pire du fret ferroviaire. La concurrence voyageur, c'est très différent. C'est-à-dire qu'entre les voyageurs et les entreprises ferroviaires, il y aura ce qu'on appelle les autorités organisatrices. En gros, c'est les régions françaises qui, elles, vont définir les plans de transport, vont définir les cahiers des charges, vont financer. Et donc, ça n'est pas une concurrence sauvage telle qu'on se la représente, avec systématiquement du moins-disant, etc. Il y aura des cahiers des charges, il y aura des choses qui permettront de réguler, un peu comme dans la plupart des villes françaises, où les Français ne savent pas que les transports sont opérés par des entreprises qui ne sont pas forcément publiques, et donc avec des villes qui régulent un peu tout ça. Donc on est loin du fantasme de la concurrence comme ça peut exister dans les télécoms ou dans l'électricité. Ce sera beaucoup mieux organisé, et ça a été tout l'objet des nombreuses discussions avec les syndicats depuis quelques années.
Fanny Araf, porte-parole de l'UNSA Ferroviaire.
Oui, je crois qu'on attend beaucoup de la concurrence. Certains en entendent beaucoup, ils pensent pouvoir y résoudre toute une solution, tout un paquet de solutions, que les prix vont baisser, etc. Je pense qu'il faut raison garder sur l'ouverture de la concurrence. On va rester entre peu de nombre d'opérateurs, parce que faire rouler des trains, c'est très très coûteux, ça demande de former des conducteurs. D'ailleurs, on demande à ce que ce soit les conducteurs SNCF qui soient transférés, tellement c'est difficile. Et effectivement, il y a une logique de contrat avec la région, mais les régions ont des financements qui sont limités. Ils parfois font des choix politiques qui ne regardent qu'eux. On n'a pas vraiment il y aura des cahiers des charges, mais qui vont prévoir un certain nombre effectivement d'offres de services, mais on ne sait pas très bien ce que va être dans la durée ces offres de services. On n'a pas d'observatoire qui permettrait de voir quelle est dans la continuité l'offre de services, c'est-à-dire les gares desservies, le nombre de trains, les prix. On a là une liberté tarifaire au niveau des régions. Donc moi, je considère qu'il y a quand même de très gros risques à ce qu'il y ait peut-être qu'au début, il y aura un effet d'appel, comme on a fait pour les cars Macron, où il y avait des cars partout à très bas prix. Et puis progressivement, 5 ans après, on en est où ? 2-3 compagnies, maintenant plutôt 2, des services qui ont été annulés. Et effectivement, des prix qui montent dès qu'il y a des situations un peu plus compliquées. Donc les choses seront peut-être plus étalées s'il y a des contrats régionaux. Mais peut-être qu'au bout de 2 ans, il y aura des avenants. Hein, c'est souvent des choses qui arrivent. Donc moi, je suis assez critique sur cette formulation de dire que l'ouverture à la concurrence va régler un certain nombre de problèmes. Ça ne va pas résoudre non plus l'état du réseau. Quand le réseau est en mauvais état, il y aura des problèmes, des incidents pour tout le monde, quel que soit l'opérateur.
Anne-Marie Guémard, pour les usagers des transports, la FNAUT.
La FNAUT est favorable à la concurrence régulée depuis longtemps parce que nous avons examiné ce qui se passe dans les autres pays d'Europe et nous avons constaté que la concurrence a plutôt apporté des améliorations. Mais la concurrence ne résoudra pas tout. Ça, c'est certain. Ce qu'il faut, c'est que les autorités organisatrices de transport, c'est-à-dire le gouvernement, les autorités régionales, investissent massivement sur le rail. Actuellement, on parle beaucoup de belles paroles, mais les actions, on ne les voit pas. Et le financement, c'est ça le nerf de la guerre. Il faut vraiment mettre le paquet sur les investissements ferroviaires. Pendant 30 ans, on a oublié les lignes secondaires, alors et elles sont maintenant dans un état pitoyable. On ne peut plus faire rouler des trains correctement sur ces petites lignes. Il faut un vrai plan d'investissement. Si on avait... Souvent, on rend le TGV responsable parce qu'on a investi sur le TGV. Mais si, dans le même temps, on a investi aussi sur les routes, on a construit des milliers de kilomètres d'autoroutes, si on avait laissé tomber les routes secondaires, eh bien, elles seraient dans un état pitoyable, de nid de poule, on ne pourrait plus rouler correctement. C'est ce qu'on a fait pour notre réseau ferré, qui était un des meilleurs du monde et qui est maintenant toujours bon au niveau des voies à grande vitesse, mais sur les voies secondaires, c'est lamentable.
Béatrice est à Rennes. Bonsoir Béatrice, merci d'écouter France Inter. Vous êtes sur l'antenne.
Merci, bonsoir à vous tous, merci pour votre émission. Je souhaitais vous apporter mon témoignage. J'ai 3 fils qui sont sur Paris, 2 qui sont salariés, 1 étudiant. Et en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, les tarifs sont exorbitants. Pour prendre le train, c'est de plus en plus cher, même avec une carte jeune, un aller, c'est 63€. Alors, il y a le Ouigo, mais les horaires des Ouigo pour un étudiant qui a la fac jusqu'à 16h, elle ne peut pas en bénéficier. Et je suis d'autant plus choquée que notre objectif aujourd'hui, c'est lutter contre le réchauffement climatique. Et bien, ça n'encourage pas à prendre le train, parce que même tout seul, ça reste presque aussi rentable de prendre la voiture pour aller à Paris que de prendre le train à 90€ l'aller.
Voilà. Merci Béatrice d'avoir témoigné. Gilles Dansard, sur ce point à la SNCF, les tarifs sont très élevés par rapport à d'autres pays, par exemple Allemagne, Italie, Espagne.
C'est difficile à comparer. En fait, la grande révolution, ça a été la fin du barème kilométrique, du tarif kilométrique. Le principe était simple, plus on va loin, plus on paye cher. Moins on va loin, moins on paye cher. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. C'est l'offre et la demande. S'il y a beaucoup de demandes sur un train à 18h le soir, eh bien, le tarif sera très élevé. qu'on aille loin ou à 150 km de Paris. Et donc, cette perception par les Français de cette tarification, elle ne colle pas avec l'attachement qu'ils ont au ferroviaire, avec la conception qu'ils ont au ferroviaire. Ils comprennent que pour l'aviation, ce soit comme ça. Ils ont depuis longtemps compris la tarification aérienne. Ils contestent de façon assez forte l'application de cette tarification aérienne au ferroviaire parce qu'ils ne comprennent pas que il faille parfois 80 euros, 75 euros pour aller au Mans en une heure, alors qu'en TER, c'est trois fois moins cher pour une heure de plus. Donc il y a une difficulté de perception de cette tarification par les Français. C'est manifeste encore aujourd'hui, même si un grand nombre d'entre eux se débrouillent. C'est-à-dire, on sait aujourd'hui la grande gymnastique d'aller sur les réseaux, d'aller sur les applications pour trouver les meilleurs tarifs, mais ça reste pas naturel. C'est un peu contre-intuitif par rapport à la conception qu'ils ont du ferroviaire.
Mais beaucoup de courriels sur ce thème. Je vous lis celui-ci. Les grilles tarifaires, on n'y comprend rien. C'est Michel qui nous a écrit cela. Les prix qui varient en permanence en fonction du taux de réservation, de la date, même de l'heure de la réservation, ce n'est pas normal. Anne-Marie Guémard.
Ah oui, ce n'est pas normal. Ouais. Mais alors, il y a d'autres trains qui ont été supprimés en France, en particulier. Les intercités, eux, ne sont pas en yield management, comme on dit, et permettent de se déplacer un peu plus lentement, mais à des tarifs abordables. Parce que quand on fait le compte, quand même, si on supprime une voiture et qu'on se déplace en train, en transport en commun, à vélo, là, on fait vraiment des économies.
Ouais. Je reviens vers vous, Gilles. Dans ça, vous m'avez pas répondu. Globalement, la SNCF, c'est plus cher que la compagnie nationale allemande, que la compagnie italienne ou espagnole ?
Alors, les comparaisons qui sont faites sur l'ensemble des billets vendus, parce qu'on vend aussi des billets à 10 ou 20 euros, finalement, le coût n'est pas si élevé quand on compare les masses entre elles. Le problème, c'est plus la perception que l'ensemble des revenus des billets pour la SNCF. C'est plutôt ça, c'est un problème de perception plutôt que de tarification finale.
Fanny Arra, porte-parole de l'UNSA Ferroviaire.
Oui, effectivement, la technique de fixation des prix par le yield management, l'offre de demande qui est faite dans l'avion, est une technique très efficace pour remplir les trains aussi, et donc pouvoir offrir tout un panel de billets qui vont effectivement à des prix d'appel qui sont très bas, et en dernière minute ou autre, à des prix qui sont extrêmement élevés. Et ce qui permet aussi de remplir au maximum les trains, et qui participe aussi d'une certaine péréquation, ce qu'on demande au TGV un peu tout, où on lui demande de couvrir d'autres trains, on lui demande de couvrir l'infrastructure, on lui demande de couvrir les dividendes aussi, verser une partie à réseau, mais également à l'État. Donc c'est effectivement la partie où se fait véritablement le flux monétaire. Après, je comprends cette difficulté effectivement de perception, mais qui est liée effectivement à cette fluctuation du prix que l'on retrouve dans d'autres secteurs, mais qui ne correspond pas à l'image que l'on a du ferroviaire comme étant dans notre quotidien, dans notre territorialité, et qui effectivement rentre un petit peu en conflit avec notamment la notion d'aménagement des territoires. Et comment effectivement permettre à tous, au plus grand nombre, de voyager? Donc ça, c'est une question qui est posée. Il y avait donc inscrit normalement des tarifications sociales. On ne sait pas trop exactement comment elles vont perdurer, comment elles vont être compensées, financées, prises en compte par la région ou pas prises par la région. Ça, c'est des questions qui sont encore un peu dans l'air.
Margot à Aubernais, dans le Grand Est. Bonsoir Margot, bienvenue.
Bonsoir, merci beaucoup.
Allez-y, on vous écoute.
Pardon, je voulais pas du tout vous interrompre. Merci de me donner l'occasion de prendre la parole. Alors, on a parlé de déconnexion entre les agents et les usagers. Eh bien, justement, moi, je suis une usagère du train. Je le prends tous les jours pour aller au travail, pour aller de Aubernais à Strasbourg. Et j'ai été confrontée à différentes grèves. Et si je soutenais les grévistes, j'étais pas forcément contente ni à l'aise avec la façon de faire grève. Et je me demande si la façon de faire grève est la bonne aujourd'hui. Parce que, voyez, imaginons, au lieu de supprimer des trains et de ne pas assurer le service était assuré, mais que par exemple les contrôleurs qui d'habitude vérifient que nos billets ont bien été pris étaient avec les usagers à discuter, à expliquer pourquoi est-ce qu'ils faisaient grève, mais à assurer le service quand même, peut-être que la cause progresserait. Et est-ce que finalement on n'a pas un problème avec la grève aujourd'hui et les moyens de mobilisation des agents ?
Fanny Arra, porte-parole de l'UNSA Ferroviaire, vous répond sur les modes d'action des agents de la SNCF, les grèves.
Alors, faut d'abord savoir qu'une grève, même à la SNCF, ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a quand même tout un processus. Bon, là, il y a eu des épisodes, effectivement, un peu, qui ont un peu tout bouleversé, mais qui se sont faits aussi, justement, en dehors de tout cadre, de la part, y compris en interne, du management, et de la part aussi des agents qui sont partis tout seuls, au départ. Dernièrement, en tout cas, à Châtillon.
Mais ils pensent pas aux usagers, même s'ils sont en colère, même s'ils ont des revendications qui peuvent être à discuter, mais les usagers se retrouvent dans des galères.
Alors s'ils pensent aux usagers. Ils pensent aux usagers, contrairement un peu à l'image qu'on peut avoir, on n'est pas dans un cocon, on ne se reproduit pas entre cheminots, enfin, on est quand même dans la vie. Donc nous-mêmes, on participe de ces voyages du train. C'est quelque chose qui tient vraiment à cœur aux cheminots, mais bien sûr que si. Et on est effectivement dans cette relation avec le voyageur, et c'est aussi parce qu'on veut qu'il y ait des trains qui soient accessibles, qu'on veut qu'il y ait de la présence. Parce qu'un train qui ne marche pas, une situation qui est perturbée, c'est perturbé pour tout le monde. Donc c'est pas un plaisir de faire grève, c'est effectivement une situation de rapport de force, de manifestation, parce que les autres procédés de discussion préalable ont échoué. C'est ça, une grève, c'est quand les autres processus dans un cadre normal de discussion, de rencontre ont échoué. Donc c'est pas satisfaisant, mais ça reste aujourd'hui effectivement un moyen d'écoute. Et on l'a vu même dans les derniers sujets, c'est parce que les conflits ont pas été réglés à la base. Alors faut savoir aussi que la SNCF, avec les dernières lois travail, on a beaucoup perdu en structure de au niveau des syndicats. On a eu le passage au CSE, nous a réduit drastiquement le nombre de représentants du personnel, avec des CSE immenses à 1200, 2000 personnes. Donc on n'a plus ces rouages internes, territoriaux, qui permettaient de déminer des petites choses qui effectivement n'ont pas donné lieu à faire en cascade. Mais vraiment, sachez que le voyageur, on a ce souci de faire voyager dans de bonnes conditions. Parce que les bonnes conditions pour le voyageur, c'est aussi les bonnes conditions pour le cheminot. Quelque part, on n'est pas dans le même bateau, mais dans le même train.
Gilles Dansart, cette image de la SNCF, la colère des usagers, ras-le-bol des grèves, vous entendez ça, c'est mauvais pour l'image des agents de la SNCF?
Les Français sont habitués à ce qu'on leur annonce la veille les trains qui circulaient le lendemain. Ça, c'est un progrès, parce qu'il faut que les gens s'organisent. Les gens peuvent comprendre des grèves. D'ailleurs, la grève des agents de Châtillon est d'une nature très différente de celle consécutive à l'accident du TER. À Châtillon, ce sont vraiment les smicards de la SNCF en 3-8 qui font grève parce que ils ont des revendications précises. La grève suite à l'action du TER, c'est plus une conception un peu abusive du droit de retrait. Mais donc, les Français sont habitués à ça, et donc aujourd'hui, ils comprennent vraiment pas comment peut survenir un mouvement qui les prend par surprise. Et d'une certaine façon, sans donner aucune leçon au syndicat, mais peut-être qu'ils pourraient davantage prendre appui sur les usagers pour expliquer pourquoi leur combat, c'est pas simplement le leur, c'est aussi celui d'une meilleure économie et d'une meilleure desserte ferroviaire.
Anne-Marie Guémard.
La FNOT respecte tout à fait le droit de grève et nous apprécions d'être prévenus. Mais en fait, nous sommes prévenus, mais c'est pas toujours fiable. Nous manquons d'informations fiables. Nous avons régulièrement des informations, mais en dehors même du droit des grèves. En cas d'incident, les explications sont parfois contradictoires, les annonces sont parfois contradictoires. On nous promet un car et on peut l'attendre pendant des heures. Et puis, quand un train de 500 personnes est en panne, les cars, c'est difficile de transporter 500 personnes en car. Il en faut beaucoup de cars. Donc, en région, la SNCF n'arrive pas à affréter suffisamment de cars. Ben, c'est vraiment très difficile pour les usagers. Et d'autre part, quand on a des grèves longues, avec des abonnés, les abonnés ne sont pas indemnisés quand il n'y a pas de train, ou très peu. Il faut que les autorités organisatrices des transports inscrivent ça dans leur convention pour que non seulement elles soient indemnisées par la SNCF qui ne fait pas circuler les trains, mais aussi les abonnés soient indemnisés.
Des courriels sur le site Fabienne à Montmorency dans le Val d'Oise, l'ouverture à la concurrence, est-ce que les prix vont baisser ? Gilles Dansart.
C'est possible sur les TGV, parce que là, c'est ce qu'on appelle de l'open access, c'est-à-dire c'est une concurrence intégrale entre compagnies. Ouais. C'est pas du tout sûr, c'est même peu probable sur les TER ou les Transiliens en Ile-de-France, parce que là, l'usager ne paye déjà que 30% de son billet. 70%, c'est déjà payé par la collectivité. Donc, faut s'attendre peut-être sur la grande vitesse, sur les TGV, peut-être à une réduction de prix, sachant malgré tout que 40% du prix du billet, c'est, il va au réseau et pas dans la poche de la compagnie ferroviaire. Donc, prudence par rapport à ça, sans doute sur le TGV, mais ailleurs, probablement pas.
Fanny Arinve ?
Oui, effectivement, le ferroviaire, c'est une activité où il n'y a pas des marges phénoménales. Hein, donc, avec des nouveaux entrants, il y a peut-être effectivement des systèmes d'aide aux nouveaux entrants pour leur permettre d'avoir des tarifs plus attractifs. Hein. Je pense que l'État, le régulateur met tout en œuvre pour faciliter l'entrée de nouveaux opérateurs. Il faudra d'ailleurs être vigilant pour que les conditions soient effectivement équitables pour tout le monde. Mais il y aura peut-être effectivement un effet d'appel, hein, comme pour tout nouveau service avec des prix bas pour instaurer une clientèle. Il faudra voir après dans la durée quelles seront un peu ces évolutions des prix. Et comme il vient d'être dit, pour ce qui concerne donc les TER et donc le régional, ça me paraît effectivement très difficile d'avoir des prix beaucoup plus bas de ce qu'il y a aujourd'hui. Il y aura peut-être des modifications d'affectation, il y aura peut-être différents types de tarification, famille ou autre. Il y aura peut-être des modifications suivant les choix qui seront faits. Mais au global, ça me paraît très compliqué, alors que les régions ont des problématiques de financement, sauf qu'on va leur demander en plus de prendre en charge de plus en plus d'infrastructures également. Donc elles ne vont pas avoir des marges de manœuvre et les opérateurs n'ont pas non plus des très grandes marges de manœuvre pour pouvoir baisser les prix.
Gabriel, bonsoir.
Bonsoir à tous, merci de prendre mon appel.
Ben
là j'écoute sur les prix, 70% des Anglais réclament la renationalisation du ferroviaire.
Oui.
Donc ça donne une idée de la catastrophe que c'est pour eux sur les prix et sur la qualité des services.
Justement, cette qualité catastrophique, vous avez des témoignages, vous avez vécu cela, vous connaissez bien la situation en Grande-Bretagne.
Un Anglais vivant dans ma région me disait que lorsqu'il prenait un train, enfin lorsqu'il partait de Nice pour aller à Londres, ça lui coûtait moins cher que pour après faire 80 km en train dans son pays.
Sur ce, oui.
Voilà. Alors, quant à moi, puis restons français, hein, revenons en France, dans l'état actuel de la SNCF, enfin dans l'état déjà dégradé de la SNCF et des prix, je vais de temps en temps chez l'une de mes filles qui habite vers Grenoble.
Oui.
Alors d'abord, il y a déjà il y a une gare au milieu de nulle part, Valence TGV. Là, on s'arrête, on sort du train et on doit prendre un TER qui ne marche pratiquement plus. Donc on se retrouve dans un bus qui met beaucoup moins confortable qu'un train, qui met une heure, plus d'une heure, pour aller à Grenoble. D'une part, et constat mais très malheureux quand même, c'est que si je prends ma voiture avec l'autoroute, plus le carburant, ça me revient moins cher que si je prends le train. Voilà.
Merci d'avoir témoigné, Gabriel. Gilles Dansard.
Alors, sur le système anglais, c'est difficile de comparer les prix parce qu'en Angleterre, les pouvoirs publics financent assez peu le ferroviaire, mais les Anglais ont beaucoup moins d'impôts que les Français. Donc, effectivement, on paye plus cher son billet de train, mais on paye moins d'impôts. Donc, les comparaisons, il faut quand même voir ça un peu différemment. Les Anglais sont revenus sur l'époque Thatcher. Thatcher a fait n'importe quoi. Elle a complètement mis par terre le réseau. Donc, ils sont revenus. Ils ont d'ailleurs renationalisé le réseau. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une opposition entre les travaillistes et les conservateurs sur est-ce qu'il faut encore aller plus loin et renationaliser les compagnies ferroviaires. Bon, c'est un débat. Mais à l'étranger, par exemple en Allemagne, où il y a de la concurrence, ça fonctionne assez bien. C'est vraiment... Il n'y a pas de loi générale. La concurrence peut marcher si elle est bien organisée. Et si elle est mal organisée ou si on privatise l'infrastructure, ça peut donner des catastrophes.
Fanny Arinve, sur ce témoignage à l'instant de Gabriel, témoignage très dur qui décrit votre entreprise, hein, c'est la SNCF.
Alors pour revenir sur les prix, effectivement, il y a deux sujets de vigilance dans les comparaisons, c'est qu'il faut regarder qui paye quoi. Donc on est dans un système, notamment pour le TER, aussi effectivement la collectivité qui paye la plupart du prix du TER, et le voyageur, on paye qu'une partie de 20 à 30%, voire beaucoup moins en certains abonnements. Mais c'est un choix collectif et je pense que c'est un choix important. Et puis il faut voir aussi ce qui fait la rentabilité du ligne, c'est aussi la démographie et l'aménagement du territoire. Donc en Allemagne, où il y a effectivement un maillage de villes intermédiaires importantes, on trouve vite une rentabilité, ce qui n'est pas tout à fait le cas du territoire français. Donc il faut avoir un peu ça dans l'esprit aussi. Et ensuite, la structure effectivement de la fixation du prix, ce qui est pris en compte pour l'entretien de l'infrastructure, ce qui est injecté par l'État pour l'infrastructure et pour l'opérateur. Et la façon dont sont organisés les flux ne sont pas tout à fait les mêmes. Certains vont injecter davantage dans le réseau, un peu moins les opérateurs, d'autres vont une répartition plus équilibrée. Donc, il faut avoir ça un petit peu en tête. Alors, concernant effectivement le voyage assez épique, effectivement, pour voir sa fille, ça pose la question, effectivement, qu'on va rencontrer de plus en plus avec l'ouverture de la concurrence, c'est comment on va coordonner des trajets qui vont être faits par des opérateurs différents. Quels choix vont être faits? Comment vont se faire les arbitrages? Comment on va pouvoir se coordonner pour un TER qui sera suivi d'un TGV? Qui va emporter? Parce que est-ce que c'est de la rentabilité de la ligne? Je pense que ça va être des questions qui vont se poser.
Excusez-moi, mais c'est déjà le cas. TER ne parle pas à TGV, les correspondances sont mal faites. Aujourd'hui, on a un système, une entreprise nationale monopolistique qui ne règle pas elle-même les problèmes de correspondance. Donc, ça n'est pas un problème de concurrence, c'est juste que on a abandonné la logique de l'effet réseau, d'assurer aux voyageurs des correspondances bien faites, des horaires bien faits, et ça dans un système soi-disant monopolistique.
C'est un système monopolistique, mais qui n'est pas suffisamment intégré, et cela vous revenez à une vraie question que nous, justement, on revendique en tant que syndicat régulièrement, c'est de ne pas, et ce qu'on craint également avec la transformation de l'entreprise, c'est qu'à force de séparer les activités, de segmenter en business unit pour voir ce qui est rentable, pas rentable, on en perd même au sein d'une même activité une vision d'ensemble. Donc là, effectivement, je suis absolument d'accord avec vous. Il faut garder cette vision d'ensemble avec cette notion de service public, justement, qui prévaut surtout.
Anne-Marie Guémard.
Je voudrais revenir sur la question de l'auditeur. Il me dit que ça lui coûte cher d'aller en train jusqu'à Grenoble, plus cher qu'en voiture. Mais il oublie ce que lui coûte sa voiture au quotidien. Ça, il n'en tient pas compte. Mais on parle toujours de coûts en euros. Certes, les transports coûtent de l'argent. Mais il y a une autre dette dont on ne parle pas, une dette en gaz à effet de serre. Et celle-là, cette dette-là, ça n'est pas un banquier qui la tient. Parce qu'une dette en euros, c'est toujours une convention entre des humains. Ça peut être remis, on peut faire des plans de financement étalés. Mais cette dette-là en gaz à effet de serre, on ne fera pas de plan de financement, on ne fera pas de remise de dette. Elle s'accumule sur nos têtes et sur les têtes de nos petits-enfants. Et quand on va en voiture de Nice à Grenoble, eh bien on émet beaucoup de gaz à effet de serre, comme le fait tout le transport routier en France, puisque c'est la première source de gaz à effet de serre en France. Il faut qu'on change d'habitude. Beaucoup de citoyens veulent changer d'habitude, et pour cela, nous avons besoin d'un réseau ferré performant et d'investissement sur le rail prioritairement.
Beaucoup de questions courriel, bientôt la fin de l'émission. Je me tourne vers vous, Gilles Dansard. On nous demande, il paraît que la SNCF doit faire des économies, améliorer sa gestion. Où en sont les comptes de la SNCF actuellement? Sont-ils dans le rouge?
Ils vont plutôt bien. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires augmente, la marge augmente, oui. et ça va plutôt bien. Il y a le problème de l'endettement qui est en partie réglé par l'État qui reprend 35 milliards de dettes, mais ça va pas si mal. Le problème est bien d'ailleurs, c'est une certaine conception de l'entreprise, des relations sociales, du développement du rail en France qui est prioritaire.
Anne-Marie Guémard.
Exact pour SNCF Mobilité, mais SNCF Réseau, il y a des problèmes. Parce que certes, le gouvernement prévoit une remise de dette, mais étrangle financièrement
bien
aussi
sûr, bien sûr.
SNCF Réseau, dont le budget n'est toujours pas bouclé pour l'année qui vient.
Bien sûr.
Des courriels encore, on n'aura pas le temps de les lire tous, mais qui évoquent souvent le fléau du surbooking, Gilles Dansard. C'est une pratique qui fait de gros dégâts à la SNCF,
le surbooking. Elle n'est pas avouée, mais elle est pratiquée sur quelques lignes qui sont très sollicitées. Mais le fait de pénaliser aujourd'hui les voyageurs qui font de trop nombreuses surréservations, c'est en train de faire baisser la pratique du surbooking.
Et au quotidien, le surbooking, c'est les trains bondés dans les TER.
Merci à nos invités. C'était le Téléphone Sonne avec Gilles Dansard, Anne-Marie Guémard et Fanny Arave. après les informations de 20h. Julia Foïs, bien
Mais
sûr.
Mais bonsoir.
Julia Foïs, 20h, 21h, votre
émission
ce soir. On va
se plonger dans, dans l'œuvre du cinéaste Sébastien Lifshitz, c'est donc en quelque sorte, Pierre, dans l'incroyable fabrique du genre humain.
Julia Foïs, 20h, 21h sur France Inter, le vendredi, pas son genre. À tout à l'heure, Julia.